Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Vivre avec responsabilité en élargissant nos horizons, en regardant vers l'avenir et en semant jour après jour les graines de la paix, telle est l'invitation lancée par le pape aux élèves et enseignants du réseau national italien des écoles de la paix qu'il a rencontré vendredi 19 avril au Vatican. Par une lettre apostolique sous forme de motu proprio, rendue publique vendredi, François est intervenu sur les lois régissant le système judiciaire, le traitement économique et la sécurité sociale des magistrats au Vatican. Nous en parlerons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire. Le Kenya a entamé vendredi 3 jours de deuil national après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires. Nous y reviendrons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira entre autres au Niger et au Rwanda. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons la parole à l'historienne belge Elisabeth Bruyère, travaillant à l'université Federico II de Naples en Italie. Et nous terminerons cette édition par le magazine consacré à l'actualité internationale. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, Français Afrique, Christian Lossambé.
Dans la matinée du vendredi 19 avril, le pape a reçu des élèves et enseignants du réseau national italien des écoles de la paix. Les remerciant dans son discours pour les initiatives qui visent à promouvoir une nouvelle vision du monde, il les a exhortés à vivre avec responsabilité en élargissant nos horizons, en regardant vers l'avenir et en semant jour après jour les graines de paix, plein d'enthousiasme dans la poursuite d'objectifs de beauté et de bonté au milieu des situations dramatiques d'injustice et de violence qui défigurent la dignité humaine. Jacques Ngol.
Face à un monde plein de tentations d'une vie aplatie sur le sol aujourd'hui qui risque de faire perdre la capacité de rêver en grand, François a manifesté sa reconnaissance à ce réseau des écoles de la paix pour sa passion et sa générosité à travailler sur le chantier de l'avenir, assurant qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut vivre avec responsabilité en élargissant nos horizons, en regardant vers l'avenir et en semant jour après jour les graines de paix qui pourront germer et porter de fruits. Le Saint-Père les a par ailleurs invités à être des protagonistes et non des spectateurs de l'avenir, rappelant la tenue en septembre prochain à New York du sommet de l'avenir organisé par les Nations Unies à l'issue duquel seront signés un pacte pour l'avenir et une déclaration sur les générations futures, le but étant de relever les grands défis mondiaux de ce moment historique. Le risque qui menace notre avenir a poursuivi le Saint-Père nous concerne tous. Il interroge l'ensemble de la communauté humaine. Il requiert le courage et la créativité d'un rêve collectif qui anime un engagement permanent pour affronter ensemble les crises environnementales, économiques et sociales que traverse notre planète. François a invité pour conclure à rêver un monde où règne un climat de bienveillance, de confiance et d'amour. Un monde où l'individualisme, la distraction et l'indifférence cèdent la place à la capacité de prêter attention à l'autre, d'écouter ses besoins fondamentaux.
Par une lettre apostolique sous forme de motu proprio, rendue publique vendredi 19 avril, François intervient sur les lois régissant le système judiciaire, le traitement économique et la sécurité sociale des magistrats au Vatican. Le Saint-Père a fixé les nouvelles règles en 6 articles, à commencer par la cessation d'activité des magistrats ordinaires à l'âge de 75 ans, tandis que pour les juges cardinaux, le seuil de cessation d'activité est fixé à 80 ans. Toutefois, le pape peut ordonner un maintien en fonction au-delà de ses limites. À l'occasion du 4e rassemblement organisé par le Forum chrétien mondial à Accra, au Ghana, le pape François a adressé jeudi un message aux participants soulignant l'importance de l'unité des chrétiens. Du 15 au 19 avril, en effet, des chrétiens du monde entier se sont rassemblés dans la capitale ghanéenne afin d'explorer, à travers le culte, les enseignements et les discussions, les façons de témoigner du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Le thème choisi par le Forum chrétien mondial pour la 4e édition de ce rassemblement, pour que le monde sache, est une invitation, selon le pape François, à incarner l'unité et l'amour du Dieu trinitaire dans la vie personnelle et ecclésiale de chaque chrétien, afin de témoigner d'un monde marqué par la division et la rivalité. Dans son message adressé aux participants à ce forum, l'évêque de Rome a souligné la diversité culturelle des personnes présentes, illustration de la beauté de la mosaïque du christianisme contemporain, unie par une identité commune en tant que disciple de Jésus-Christ. Il a en outre souhaité que cette rencontre aide les participants à approfondir leur foi et à revitaliser leur amour fraternel. L'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire a tenu mercredi 17 avril 2024 au centre diocésain de Yamoussoukro sa deuxième assemblée générale extraordinaire. À cette occasion, Mgr Jacques Asamvo Aiwa, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, a invité les membres à doter l'association de structures fortes et solides afin de rendre l'école catholique plus dynamique et en adéquation avec son identité. Les précisions de Marcel Ariston Blé.
Les membres de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire ont tenu mercredi 17 avril 2024 au centre diocésain de Yamoussoukro leur deuxième assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale présidée par Mgr Jacques Asamvo Aiwa, administrateur apostolique de Boaké et président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique. Dans son discours, le prélat a fait l'état des lieux de la marche de l'école catholique dans le pays.
L'école catholique, malgré les bons résultats, ils font la fierté de l'Église, peine non seulement à résoudre la question salariale, mais aussi à l'Église, propriétaire des écoles, le minimum vital pour soutenir sa mission d'évangélisation.
Cette réalité ambivalente qui est apparue au fil des ans de la marche de l'école catholique jusqu'à ce jour est une situation qu'il faut chercher à normaliser, a soutenu Mgr Aiwa.
Je souhaite vivement qu'au sorti de cette AG extraordinaire, notre association fonctionne effectivement sur la base des textes qu'elle s'est donnés en vue d'une meilleure évaluation du travail et ouvrir les véritables chantiers pour son autonomisation.
Clôturant les travaux, l'évêque président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a remercié tous les acteurs pour leurs implications, leurs efforts inlassables au rayonnement de l'école catholique. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Une délégation américaine est attendue la semaine prochaine à Niamey pour discuter avec le régime militaire qui a dénoncé un accord de coopération militaire avec Washington, a annoncé vendredi la télévision publique nigérienne. Une délégation américaine de haut niveau se rendra la semaine prochaine à Niamey pour faire le point de notre coopération et faire des propositions concrètes à la partie nigérienne afin de mieux envisager l'avenir, a affirmé la télévision dans un compte-rendu d'une visite à Washington du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein. Dans la capitale américaine où il est arrivé mardi, M. Lamine Zein a rencontré des responsables du département d'État. Le renforcement des relations diplomatiques et économiques, commerciales et technologiques a notamment été abordé selon la télévision. Le Kenya a entamé vendredi 3 jours de deuil national après la mort, dans un accident d'hélicoptère, de son chef des armées, Francis Omondi Ogola, et de 9 hauts responsables militaires. L'hélicoptère s'est écrasé jeudi en début d'après-midi dans la région reculée de Sindar, dans le comté d'Elgeyo Marakwet, à environ 400 km de Nairobi. 2 militaires ont survécu au crash. Âgé de 61 ans, Francis Omondi Ogola avait été nommé à la tête des armées le 29 avril 2023 par le président William Ruto. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident. Au Rwanda, un projet de loi controversé et régulant strictement le fonctionnement des ONG a été adopté jeudi en première lecture par le Parlement à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Les opposants à ce projet, qui doit revenir prochainement devant les parlementaires pour un vote final, soulignent qu'il limite les libertés civiques dans un pays que le président Paul Kagame est accusé de diriger dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression. Le projet de loi a été voté à 45 voix pour et aucun contre dans un parlement largement contrôlé par le Front patriotique rwandais au pouvoir. Il prévoit d'imposer des règles strictes au fonctionnement des ONG et les oblige notamment à soumettre leur budget à l'approbation des autorités rwandaises. La diplomatie vaticane et la formation de l'Occident sous le pontificat de Pie XII est le thème de la conférence internationale qui s'est tenue du 18 au 19 avril 2024 à l'Université pontificale grégorienne à Rome. L'une des thématiques développées porte sur le nouveau rapport entre le Saint-Siège et l'Afrique. Ce thème a été présenté vendredi 19 avril par Elisabeth Brouillère, docteur en droit de l'Université de Gand en Belgique et chercheuse en histoire contemporaine. Interrogée par Radio Vatican, elle a notamment évoqué l'impact de la diplomatie vaticane sur les pays africains sous le pontificat de Pie XII.
Oui, alors que les territoires africains n'ont souvent pas de représentation ni de statut dans l'ordre juridique international puisqu'ils dépendent des différents empires coloniaux, le Vatican envoie un nombre grandissant de représentants pontificaux, le plus souvent des délégués apostoliques, dans tous les coins du continent africain. Donc on a une délégation apostolique en Afrique du Sud à partir de 1922, au Caire en 1927, et puis à Mombasa et à Léopoldville en 1930. Et ça va continuer ainsi avec Addis Abeba et Dakar. Ces représentants sont là pour augmenter le contrôle du Saint-Siège sur les missions. Le but du Saint-Siège est de s'assurer de la neutralité des missionnaires, mais aussi de la discipline qui règne dans les missions. Et en plus de ce rôle officiel, les délégués apostoliques négocient avec les autorités coloniales. Le but est donc de dissocier les missionnaires des ambitions coloniales, mais cela n'est évidemment pas une mince affaire.
Comment est-ce que l'Afrique a façonné la diplomatie vaticane sous le pontificat de Pie XII ?
Ce qui est très intéressant, c'est que les diplomates du pape qui sont envoyés sur le sol africain sont en contact non seulement avec les populations locales, mais aussi et surtout avec le clergé local. Et je pense qu'en fait, le clergé africain a un impact important dans l'ouverture d'esprit du Saint-Siège, puisque jusqu'à présent, les cercles curiaux ne pouvaient se baser que sur les témoignages des missionnaires européens. Les abbés africains, notamment, sont parvenus à faire valoir leur point de vue sur différents dossiers, et leurs griefs vont être essentiels dans l'évolution de leur statut. C'est ce que j'étudie particulièrement au Congo belge et au Rwanda-Urundi. Je vais prendre un exemple. Dans le Kasaï, ils ont souhaité pouvoir exprimer leur opinion. Donc c'est une opinion facultative qu'émettent en général les missionnaires européens sur le prochain vicaire apostolique. Ce n'était jusqu'alors, il n'y avait pas de précédent. Ils ont souhaité émettre leur opinion, ils en ont fait la demande. Le Saint-Siège s'est exprimé sur la question et a dit non seulement ils peuvent donner leur vote, mais ils le doivent désormais, il faut les compter avec dans l'organisation du futur diocèse, du vicariat apostolique.
Là, vous parlez du Kasaï au centre du Congo.
Oui, parfois il y a donc des tensions entre les deux clergés, puisqu'on a d'un côté un clergé qui est régulier, qui est composé des missionnaires européens, qui, dans le cas qui occupe la majorité de ma recherche, donc un clergé en grande majorité belge, et de l'autre côté, un clergé en cours de formation qui est diocésain et qui fonctionne quand même sous les ordres finalement des missionnaires européens. Et évidemment, les abbés progressivement n'hésitent pas à dire qu'ils souhaitent plus d'autonomisation, et ça, je pense que ça va jouer un rôle très important dans l'évolution des situations sur place et dans l'autonomisation progressive du clergé local, même si c'est un peu les intentions dès le départ du Saint-Siège, ça va accélérer le processus dans bon nombre de dossiers.
Interrogée par Stanislas Kambashi, Elisabeth Brouillère, docteur en droit de l'Université de Gand en Belgique et chercheuse en histoire contemporaine. Elle s'intéresse particulièrement à la diplomatie vaticane dans l'espace colonial belge et au modèle, système et régime politique dans les colonies. À présent, parole à Marie-Josée Moindo pour l'actualité internationale de la semaine.
Commençons cette rubrique avec les réactions venant de plusieurs pays et organisations internationales appelant à la retenue après des informations dans la matinée de vendredi faisant état d'une attaque israélienne contre l'Iran en représailles aux tirs de drones et de missiles contre Israël le week-end dernier. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont appelé vendredi toutes les parties à empêcher une nouvelle escalade. Dans le communiqué final publié à l'issue de leur réunion de 3 jours, sur l'île italienne de Capri, les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont par ailleurs dénoncé le nombre inacceptable de civils tués à Gaza par l'offensive militaire israélienne. En Irak, un responsable local du Kurdistan autonome a affirmé vendredi qu'un homme a été tué dans une frappe de drone imputée à la Turquie dans le nord de ce pays. Le maire du district de Sidakan, Ishan Chalabi, a évoqué une frappe de drone turque contre une voiture, précisant que le corps appartient à un habitant de la région qui fait partie des Peshmerga, les forces de sécurité locales kurdes. L'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'intensification du conflit civil en Birmanie qui a culminé récemment avec la prise d'une ville stratégique à la frontière thaïlandaise par des combattants anti-junte. Un volcan isolé situé dans le nord de l'Indonésie est à nouveau entré en éruption vendredi, quelques jours après des éruptions qui ont contraint à l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants d'une île voisine du cratère. Des inondations et des glissements de terrain ont fait plusieurs dizaines de morts en Afghanistan et au Pakistan. Emmanuel Derville.
Les précipitations qui s'abattent sur le Pakistan depuis plusieurs jours sont inhabituelles. D'ordinaire, c'est durant la mousson l'été que les pluies font déborder les fleuves et déclenchent des inondations. Les trombes d'eau, accompagnées d'orages, ont provoqué l'effondrement de plusieurs maisons, faisant une vingtaine de morts et une trentaine de blessés. Des routes, des ponts ont été emportés. C'est la cinquième fois en moins de 15 ans que les pluies diluviennes ravagent la région. Les précipitations frappent également la province du Baloutchistan et la capitale économique, Karachi, depuis le début de la semaine. Le Baloutchistan est l'une des régions les plus arides du pays en temps normal et les infrastructures ne sont pas du tout adaptées pour recevoir autant d'eau. L'Afghanistan voisin a aussi été frappé par cette météo dévastatrice. Les autorités talibanes ont recensé près de 70 morts, ainsi que des centaines de têtes de bétail et un millier de maisons perdues. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Élections législatives en Inde, ce pays vote depuis vendredi matin dans le cadre d'élections générales. Le premier ministre Narendra Modi a exhorté dès le début du vote les électeurs de la première phase du scrutin, qui en compte 7, à exercer leur droit de vote en nombre record. Dossier élection cette fois en Croatie où les résultats indiquent que le parti au pouvoir reste en tête à l'issue des législatives, comme nous l'explique Simon Rico.
Pour une fois, les sondages ne s'étaient pas trompés. L'Union démocratique croate du Premier ministre Andrei Plenković est largement en tête avec plus de 34% des voix, distançant de près de 10 points la coalition des sociaux-démocrates emmenée de facto par le président Zoran Milanović. Alors que la campagne, courte et dure, a été dominée par leur duel, la balle est désormais dans le camp des petits partis. Tous les regards se portent notamment sur les deux formations nationalistes qui arrivent juste derrière et font une entrée en force au Parlement. Au vrai, aucune majorité ne semble toutefois se dégager, alors que l'opposition a tapé très dur sur la corruption du camp conservateur durant la campagne. Le parti du Premier ministre apparaît donc très isolé, mais le gouvernement de salut national, dont rêve tout haut le président, a aussi du plomb dans l'aile. Il n'y a pas eu de dynamique en sa faveur, et le mouvement de la gauche écologiste, qui a 10 députés, refuse toute alliance avec l'extrême droite. De fait, beaucoup craignent de nouvelles législatives anticipées, alors que le pays retournera aux urnes le 9 juin pour les européennes, puis en décembre pour la présidentielle. La super année électorale en Croatie promet d'être longue et à rebondissement. Simon Rico, Zagreb, pour Radio Vatican.
Les autorités ukrainiennes ont revendiqué avoir pour la première fois abattu un bombardier stratégique russe. Les ministres des Affaires étrangères des États du G7 ont dans le même temps pris l'engagement de renforcer les moyens de défense anti-aérienne de l'Ukraine à l'issue de leur réunion dans le sud de l'Italie. Ils ont par ailleurs exprimé leur forte préoccupation à propos de transferts de matériel chinois profitant selon eux à la production militaire russe. De son côté, Moscou a fait état de la mort des membres d'équipage dans le crash d'un avion Tupolev 22M3 à la suite d'une défaillance technique.
Avant de conclure cette édition, c'est avec regret que nous vous annonçons, chers auditeurs, le décès de notre correspondant au Bénin, M. Guy Dosu-Yovo, intervenu jeudi 18 avril. Le programme Français Afrique de Radio Vatican présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Et c'est sur cette note que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.